J'aimerais encore à nouveau aujourd'hui parler de l'Église. Vous savez, c'est un thème qui sera inépuisable. Si on veut, on peut continuer comme ça des dimanches et des dimanches. Mais je voudrais, et j'ai à cœur de la part du Seigneur, de mettre en évidence une caractéristique certaine de cette Église glorieuse et divine. J'avais dit il y a deux dimanches de cela que c'était véritablement un chef-d'œuvre de la part du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais rappeler ce matin que l'Église de Jésus-Christ est une Église qui se veut multigénérationnelle. Oh Joël, il a sorti le grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement que Dieu veut une Église qui est formée de toutes les générations. Et quand je dis toutes les générations, je parle des petits, des grands. Béni soit Dieu ici, je ne sais pas si vous avez constaté, les enfants, avant de se retrouver dans les différentes classes du club des enfants, se retrouvent avec nous pour vivre la louange. Et je crois qu'on se rapproche plus de ce qui se passait dans les premiers temps. Toute l'Église, et l'Église est composée d'enfants, d'adolescents, de jeunes gens, de jeunes hommes, de jeunes filles, et de personnes d'un âge certain ou d'un certain âge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce slogan « Nos enfants sont l'Église de demain ». Et par déduction, nos aînés sont l'Église d'hier. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Je pense que la réalité, c'est que, quel que soit notre âge, nous formons tous l'Église d'aujourd'hui. Que ce soit les nourrissons, les enfants, les adolescents, les jeunes, les moins jeunes et les vieillards, sans parler d'un terme péjoratif, parce que ce n'est pas un terme péjoratif, les personnes âgées, les aînés, tous ensemble nous formons l'Église locale d'Istres. Et cette même Église locale d'Istres est imprimée et greffée, bien sûr, à cette Église universelle qui compose tous les enfants de Dieu rachetés sur toute la surface de la terre. Et comme on l'avait vu dernièrement, comme nous l'avions partagé, ensemble nous formons le corps spirituel de Jésus-Christ dont Jésus est la tête. Il y a même aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, certaines églises spéciales qui aimeraient avoir en son sein que des jeunes. Alors il y a ce mouvement qui commence à prendre de l'ampleur, que des jeunes. On veut une église remplie de jeunes. Quelqu'un dit qu'est-ce qu'on fait des vieux. Et vous comprenez bien que ce schéma, il n'a rien à voir avec le modèle biblique des Écritures. Bien au contraire, le Seigneur Jésus désire que son église soit une église multigénérationnelle, où toutes les générations vivent ensemble, où toutes les générations s'aiment, s'unissent, se respectent et travaillent ensemble à l'avancement du royaume des cieux. On va faire quelque chose. Regardez celui qui est à votre droite et à votre gauche. Attention, vous pouvez tomber sur un adolescent ou bien une personne âgée. Tu es la bienvenue dans la maison de Dieu. Toi aussi, tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est important, c'est important. Petits et grands, alléluia, formons ensemble l'Église de Jésus-Christ. Et en cela, nous serons ensemble accomplir ce qu'a été la prière du Seigneur Jésus. Rappelez-vous cette fameuse prière dite sacerdotale où le Seigneur Jésus, devant ses disciples, a prié Dieu le Père et a demandé une chose. Père, qu'il soit un comme nous sommes un. C'est cette Église-là que nous devons développer afin d'être conforme au modèle des Écritures. Alors j'aimerais ce matin faire quelque chose de particulier. J'aimerais ce matin, dans un premier temps, m'adresser séparément à deux générations que l'on retrouve dans l'église locale. Cette première génération dont je voudrais m'adresser ce matin, ce sont les aînés. Y a-t-il des aînés dans l'auditoire? Ah, il y en a. Et puis je voudrais aussi m'adresser aux jeunes, aux ados. Y a-t-il des ados ou des jeunes dans l'auditoire? Oui, allez, on peut faire une battle. Et puis dans un deuxième temps, m'adresser peut-être en même temps aux aînés et aux jeunes. Alors commençons par les aînés. J'ai entendu qu'il y en avait dans cet auditoire. Juste en introduction, lire ce merveilleux passage dans le psaume 92. Regardez ce qu'il est écrit. Psaume chapitre 92, du verset, donc ça dépend des versions, 13 au verset, au verset 15, excusez-moi. Psaume chapitre 92, du verset 13 au verset 15. Les justes. Je vous laisse le temps de chercher. C'est important que vous ayez la parole de Dieu sous les yeux. Les justes croissent comme le palmier Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Frères et sœurs, combien de frères et de sœurs de nos églises, parce qu'ils sont avancés en âge, pensent qu'ils ne servent plus à rien. Et souvent dans leur parole, c'est place aux jeunes. Bon, nous, on est comme relayés au placard. Non, c'est pas ça. Ce que nous venons de lire dans ce texte formidable nous affirme exactement le contraire. En effet, ce n'est pas votre âge avancé qui peut éteindre la flamme que Dieu lui-même a allumée dans votre cœur. Je m'adresse aux aînés. Si vous êtes toujours, comme on l'a lu, planté dans la maison de l'Éternel, autrement dit, si vous êtes toujours greffé à Jésus-Christ, si vous êtes attaché, j'ai envie de dire, si vous êtes enraciné en Jésus-Christ, même dans votre blanche vieillesse, même malgré votre âge avancé, vous pouvez encore porter du fruit. Pourquoi ? Parce que la sève de Jésus-Christ coule encore dans votre sein, coule dans votre vie. Alors c'est vrai que les fruits seront différents, ils seront plus matures, plus sages, plus juteux, plus sucrés. Parce que l'expérience, le temps va faire normalement que la sagesse puisse augmenter. Le fruit, c'est vrai, sera différent, mais vous porterez du fruit. Vous savez, lorsque les forces déclinent, les forces spirituelles, elles, continuent à pouvoir s'exercer. Elles restent toujours intactes et efficaces pour servir et glorifier le Dieu vivant et vrai. Et d'ailleurs, dans la Bible, on voit tellement d'exemples d'hommes et de femmes qui, malgré leur âge avancé, ont continué à servir Dieu. Vous savez, c'est une question d'amour. Si on sait qui est Dieu, eh bien, avec les forces, le peu de forces qui nous reste, on va continuer à servir Dieu. Et plaise à Dieu. Moi, j'ai eu l'exemple d'anciens. Je me rappelle encore ce vieux frère, vieux pasteur. De tout son cœur, louait le Seigneur. Moi, ça m'a marqué à vie. Il ouvrait sa bouche, tant pis pour les dents qui manquaient. De tout son cœur, il ouvrait la bouche et louait le Seigneur. Parce que quand je chante, je sers Dieu. Je n'ai pas le droit d'être muet devant le Seigneur. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Vous savez, quand le cœur est débordant, la bouche ouvre. La bouche est l'expression même de notre cœur. Alléluia. Et la parole est l'expression même de notre foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé ». Pour ça, j'invite même les personnes qui ont du mal à pouvoir prier en public, etc., de prendre cette autorité. Dans le nom de Jésus, vous avez le droit de parler à votre Père Céleste. Que ce soit en public ou seul dans votre chambre, élevez la voix. Notre parole est quelque part créatrice, puisqu'on a compris dans la Bible que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors lorsque j'ouvre la bouche, lorsque je proclame sur moi et sur ma famille, nous serons plus que vainqueurs. Il adviendra ce que tu auras déclaré de ta bouche. Et c'est tellement important de le savoir. Alors des hommes, des femmes bien avancés en âge, il y en a à l'appel, j'en ai pris quelques-uns. Caleb. Qui était Caleb ? Caleb était celui qui secondait Josué et qui enfin sont arrivés aux portes du pays de Canaan. Et avec tout le peuple de Dieu, ils ont pu investir, ils ont pu s'approprier des promesses de l'Éternel. Et Caleb, lui, était avancé en âge, mais pourtant était toujours déterminé pour pouvoir entrer dans les promesses de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Josué chapitre 14, les versets 10 et 11. On va le lire ensemble. Josué chapitre 14, versets 10 à 11. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de, aidez-moi, de 85 ans. Mais je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Voilà un homme qui ne regardait pas, qui n'écoutait pas son corps, qui était quelque peu fatigué, peut-être, certainement, mais qui, par la foi, voulait continuer et continuer. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et cet homme, non seulement il est entré dans le pays promis, mais mieux encore, il a réclamé une montagne, la montagne d'Hébron. Et cette montagne, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, il y avait beaucoup de géants, les géants de la famille d'Anak, et il les a tous terrassés, tous liquidés. Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Que dire encore d'un autre personnage, cette fois-ci une femme, pour ne pas faire polémique ce matin, Anne. Anne, non pas la femme de Elkana, mais Anne, la fille de Phanuel. Vous savez, cette femme qui était elle aussi fort avancée en âge et qui ne quittait pas le temple. Et on peut lire également son histoire, Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse. Une prophétesse. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Regardez son histoire, très courte. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Une femme qui aurait pu s'arrêter à ce deuil et rester encore dans ses pourquoi. Pourquoi, Seigneur, tu as permis ça, pourquoi ça? Elle a vécu 7 ans. Qu'est-ce que 7 ans, ça passe tellement vite avec son mari depuis sa virginité. Mais regardez, verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. C'est pas beau ça? Le pasteur a beau lui dire, bon, c'est l'heure, il faut rentrer. Elle ne quittait pas le temple. Jour et nuit. Elle savait que c'était la mission. Malgré son âge avancé, eh bien, elle pouvait être efficace. Et cette femme, tout comme Siméon, a pu voir le jour du Seigneur. Elle a pu être là présente quand eh bien, les enfants, les parents eh bien, de Jésus sont venus présenter le Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Alors, soyons honnêtes, il est vrai, quand on arrive à un certain âge, on ressent le poids des années. Les rhumatismes sont là pour nous rappeler que le corps, la machine, commence à rouiller, oui ou non. Et puis ça nous remet en place parce qu'on a compris que de toute façon, ce qu'on pouvait faire lorsqu'on était jeune, on ne peut plus le faire maintenant. Mais cela ne doit pas nous décourager eh bien, pour pouvoir continuer à servir Dieu, bien sûr, sous d'autres formes. Oh, une fois, j'ai rencontré une sœur. Je suis parti la visiter, c'était sur l'église de Toulouse. Une petite mamie, très avancée en âge. Elle m'a invité chez elle, elle a voulu me faire visiter les lieux. Maison très soignée, très propre, ça c'est une bonne chose. Et puis elle arrive au séjour et puis elle me montre une chaise qui était un petit peu mise à part, esselée. Oh, une chaise, bon, rien de plus extraordinaire. Mais avec un large sourire, elle m'a dit, c'est là où chaque jour je me tiens avec le Seigneur. C'est là où je prie pour l'Église en général et où je prie pour les enfants de Dieu, les chrétiens, mes frères et mes sœurs en particulier. Et cette femme, malgré son âge avancé, je ne m'en rappelle plus son âge, qui venait d'ailleurs difficilement à l'Église mais qui s'asseyait toujours à la même place. Cette sœur, dans le secret de sa maison, s'était investie d'une mission particulière, spéciale que Dieu lui confiait, c'est-à-dire d'entrer dans un temps d'intercession, de prière au quotidien, pour le reste de ces églises. Béni soit Dieu pour ces genoux qui fléchissent. Béni soit Dieu pour ces personnes qui ont compris qu'il y a toujours un moyen pour pouvoir servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Mon frère, ma sœur, avancez en âge avec tout le respect que je vous dois parce que nous devons honorer les cheveux blancs. Il y a encore de la sève en vous. Nous, les jeunes et les moins jeunes, je suis plus dans la partie moins jeune, moi, on a besoin de vous. On a besoin de vous considérer, on a besoin de vous respecter. Dans une autre église, ce qu'on faisait quand on rassemblait les aînés, quand on leur préparait une fête, eh bien, on demandait à ce que les adolescents puissent venir et servir eh bien, les personnes âgées. Les aînés étaient aux petits soins et les ados venaient et les servaient avec un large sourire. C'est tellement important. Je vais terminer avec les aînés en rappelant un fait certain. C'est que Dieu, notre bon Père Céleste, nous restera toujours fidèle jusqu'à notre vieillesse. Il y a un verset que vous devriez souligner. Peut-être vous qui pensez, parce que vous êtes avancé en âge, que peut-être vous sentez la solitude chez vous. Dieu vous laisse une promesse, que j'ai citée d'ailleurs cette semaine, que je recite maintenant, Ésaïe chapitre 46, versets 3 et 4. Regardez, Ésaïe chapitre 46, versets 3 et 4. « Écoutez-moi, maison de Jacob !» Et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. C'est pas beau ça? C'est pas un homme qui parle. Si c'est un homme, je pourrais peut-être remettre en cause ces quelques versets. C'est Dieu, celui qui ne ment jamais. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. et il sera fidèle jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Juste, eh bien, au dernier souffle, après, nous entrerons dans cette éternité avec Dieu. Alors ça, c'est encore l'apothéose. Alors, je termine avec les aînés. Je crois que j'en ai dit assez, en tout cas. Les grandes lignes sont là. Je désire m'adresser aux jeunes et aux ados. Est-ce qu'il y en a dans l'auditoire? Des jeunes et des ados. Il y a des mains qui se lèvent. Les jeunes et les adolescents. Lorsqu'on parle de jeunesse, bien sûr, il y a des synonymes qui nous viennent à l'esprit. Jeunesse, qui dit jeunesse, dit vigueur, dit force. On va parler aussi de fraîcheur, de vivacité, du dynamisme. Moi, j'ai mes petites là, surtout la deuxième, elle ne reste pas en place. Hein. Quand elle est malade, on sait qu'elle est malade. Hein. Parce qu'au moins, elle fonce dans les murs, elle nous met la maison dessus dessous. Heureusement, elle n'est pas là, elle n'entend pas. Mais ce sont des réalités, de l'énergie. On leur demande de pouvoir faire la sieste l'après-midi, impossible. Il faut presque les ligoter. On ne va pas jusque-là, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais il y a un verset que j'aime personnellement, le psaume 110. Regardez avec moi, le psaume chapitre 110 et le verset 3. Avez-vous fait attention à ce psaume? Psaume chapitre 110 et le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur. Et quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. C'est pas beau ça? C'est presque poétique. Du sein de l'aurore. Oui, cette aurore, l'aube qui se lève au loin, la lumière, du sein de la lumière, Jésus est la lumière. Une jeunesse vient à toi comme une rosée, une fraîcheur qui va venir arroser là où il y a le pays. On a besoin également de cette tendre jeunesse. Et Dieu a besoin d'elle. Dieu possède parmi sa grande armée de serviteurs et de servantes, est-ce que vous le savez, des jeunes et des adolescents. Et on le voit bien là aussi, j'ai aussi des exemples à vous donner. Dans la Bible, à maintes reprises, Dieu a utilisé des jeunes gens, des jeunes filles. À commencer par la petite servante qui a amené en captivité là-bas en Syrie et devait servir ce général en chef, le grand Naaman. Mais il a fallu de la petite voix de cette petite pour dire à ce général qui était atteint de la lèpre, « Il y a encore espoir pour vous. On est peut-être petit aux yeux du monde. » On est appelé d'ailleurs même dans l'évangile selon saint Jean, le petit troupeau de Dieu. Mais un petit troupeau avec une grande puissance. Et nous voudrions ressembler à cette petite jeune fille qui a eu le courage de dire à ce général, à celui même qui était son maître et dont elle était l'esclave, « Il y a espoir pour vous, Naaman. » Et je ne sais pas quel a été le devenir de cette femme par la suite, parce que Naaman entre-temps a été guéri effectivement de sa lèpre. Mais je crois bien que ce grand chef militaire a su honorer cette jeune fille. Peut-être par la suite, parce qu'on pourrait imaginer, supposer, peut-être a-t-elle été adoptée ou libérée, je ne sais pas. On a en tout cas, nous, une mission à porter à ce monde, à pouvoir être ces porteurs de ce beau message comme cette jeune petite servante. Mais il y a d'autres exemples, c'est le jeune Samuel. Un temps, la Bible nous dit, où la parole de Dieu se faisait rare. Et Dieu a trouvé ce petit jeune homme et a essayé de lui parler à plusieurs reprises. Il n'a pas compris au départ. Et on peut comprendre qu'il était tout jeune. Le jeune Samuel. Et Dieu s'est révélé à ce jeune Samuel pour lui apporter des révélations concernant les desseins de Dieu pour l'avenir d'Israël. Dieu s'est aussi choisi le petit David. Quand le prophète, ce même prophète, le prophète Samuel, est venu dans la famille de David, il a demandé à son père Isaï de pouvoir rassembler ses enfants et ce père a rassemblé les 7 premiers enfants. Mais il y en avait un 8e. Je crois que c'est intentionnellement que cet homme n'a pas voulu désigner ou appeler David devant le prophète. Il était d'ailleurs trop jeune pour être désigné comme un grand libérateur, pour être oint par le prophète qui était dans cette maison. On a commencé par présenter le plus grand, Eliab, et puis il y a d'autres qui sont arrivés. Mais le prophète ne reconnaissait pas en eux celui que Dieu avait choisi. Et le prophète se retourne vers le papa Isaï. Y a-t-il pas un autre de tes fils? Ah oui, mais il y en a un autre là, tout petit là, le petit mignon. Va me le chercher. Étonnamment, c'est celui que Dieu a choisi. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est capable d'utiliser notre jeunesse? Dieu ne regarde pas aux âges. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il était tout frêle. Il était tout mignon, tout gentil, tout beau. La Bible nous dit un petit blond. Mais il avait un cœur d'or. Un cœur selon le cœur de Dieu. Et c'est ce petit jeune homme que le Seigneur voulait choisir pour décapiter la tête du grand géant qui paralysait toute une armée entière. C'est ce petit jeune homme que Dieu avait déjà bien choisi dans son cœur pour être le grand roi, alléluia, de tout le peuple d'Israël. C'est pas beau ça. Vous savez, il y en a qui bombent le torse, qui voudraient, le Seigneur vous met de côté. Le Seigneur, il sent notre cœur. Il sent le doux parfum qui sort de notre cœur. Et puis on est humble. Et même David n'a pas dit, mais Isaïe, papa, tu ne me choisis pas pour être... Non, non, il est resté tranquillement avec ses troupeaux. Et c'est lui-même, Dieu lui-même qui est venu le chercher. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Un autre exemple, allez, c'est Timothée. Parce que là, tous ces exemples, c'était dans l'Ancien Testament. Mais Timothée, c'est dans le Nouveau Testament, ce petit jeune frère de l'église d'Istres. Il aurait pu être dans l'église d'Istres, hein ? Pas le cas. Mais Timothée... était un bien jeune garçon lorsque Paul l'a remarqué. D'ailleurs, il avait un bon témoignage dans son église. Et Paul a décidé de faire de lui son compagnon d'œuvre. Parce que Paul discernait un appel dans le cœur de ce jeune homme. Mais parce qu'il était très jeune, Paul a dû lui adresser une exhortation que je voudrais placer devant vos yeux, 1 Timothée chapitre 4, verset 12. En lui écrivant un premier courrier, l'apôtre Paul va encourager Timothée et va lui dire que personne ne méprise ta jeunesse. Mais au contraire, sois un modèle dans six domaines. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Il y a d'autres versions qui disent en esprit également. C'est important que personne ne méprise ta jeunesse. Vous savez que Dieu est capable de se servir de jeunes, d'adolescents. Je me rappelle, je m'occupais à l'époque dans une église. C'était en Martinique. Je m'occupais des jeunes. Puis un jour, j'étais vraiment, vraiment attaqué. Ça devait être une journée spéciale avec les pré-ados. Et je sentais des combats. L'ennemi n'est pas content. Il ne sait pas tout, mais il peut pressentir des choses. C'est pour ça qu'il prend les devants et essaye d'arrêter l'œuvre de Dieu. Et alors que j'étais pas bien. Une petite adolescente est venue, sortie du lot, qui était là, présent, et a écrit sur un morceau de papier « Joël, le Seigneur te délivre de tous tes ennemis ». Et quand j'ai lu ce papier, j'ai compris que Dieu est capable de se servir et de parler parmi des enfants. Et Dieu seul sait ce qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'à l'instant que j'ai lu ce papier, le Seigneur m'a renouvelé, m'a fortifié. Ce jour-là, il y a eu des pleurs, des larmes, des confessions de ces ados. Certains se sont tournés vers le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, Dieu désire se servir de la jeunesse. Dieu désire se servir de toi, jeune homme, jeune fille, adolescent, adolescente. Dieu voudrait que tu puisses pleinement confier ta jeunesse. Vous savez, moi, c'est à 15 ans et demi que j'ai donné mon cœur au Seigneur. On n'est jamais trop jeune pour se tourner vers Dieu. Quand on arrive à l'âge de la raison, l'âge de pouvoir choisir, on peut. Et je ne regrette pas ce choix. Pas du tout. Et ça fait 31 ans, alléluia, que je marche avec le Seigneur, comme ça vous connaîtrez mon âge. Jeunes gens, adolescents, jeune homme, jeune fille, à qui as-tu confié ta jeunesse? La Bible dit dans le livre des Proverbes, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Sache une chose, si tu te confies pleinement à l'Éternel, alors tu ne le regretteras jamais. Et au contraire, tu feras le plus grand, le plus merveilleux des investissements de toute ton existence terrestre. Si tu te donnes à Dieu, si tu te livres entre les mains de Dieu. Alors je voudrais terminer, comme promis, on a parlé des aînés, on a parlé également des jeunes, des adolescents. Je voudrais maintenant m'adresser en même temps aux aînés et aux jeunes. Est-ce que je peux le faire ? Pour terminer, jeunes et aînés ensemble. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est certain, le Seigneur Jésus désire que son église soit une église multigénérationnelle. Une église où toutes les générations s'aiment, s'unissent, se respectent et travaillent ensemble. Car à la vérité, nous avons tous besoin des uns et des autres. Est-ce que nous pouvons le réaliser, ça? Nous avons tous besoin des uns des autres. Nous avons besoin de la jeunesse, nous avons besoin des cheveux blancs. Ce n'est pas nos personnes d'un certain âge, d'un âge certain, eh bien, qui pourront eh bien, courir, puis distribuer. Ça, ils l'ont fait quand ils étaient un peu plus jeunes. Maintenant, Dieu leur demande d'autres services. Parce que dans la vie, il y a toutes sortes de saisons. C'est bel et bien aux jeunes hommes, aux jeunes gens, de pouvoir aller courir dans les montagnes, etc., et aller jusqu'aux confins, eh bien, au loin, pour pouvoir servir Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 20 et le verset 29. On en a bientôt terminé. La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Quand on parle des cheveux blancs, on parle bien sûr de... c'est un symbole de la sagesse et puis de cette maturité, de l'expérience de la vie eh bien des personnes âgées. Mais il nous est dit, la force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. On a d'un côté les atouts, mis en évidence, en tout cas l'atout de la jeunesse, la force, on l'a vu tout à l'heure, la vigueur, l'ardeur, et puis aussi l'atout eh bien, des aînés, c'est-à-dire l'expérience, la sagesse et la réflexion. Et c'est justement en combinant ces différents atouts que nous serons ensemble une église forte. Est-ce que nous le croyons ce matin? C'est tellement important. On a besoin de se complémentariser. Et Dieu a voulu que les choses soient ainsi pour qu'on soit complémentaires les uns et les autres. Je crois que Dieu a voulu ces choses afin qu'ensemble, jeunes et aînés, puissent, premièrement, se réjouir en Dieu. Jérémie chapitre 31 le confirme. Jérémie 31 verset 13, regardez ce qu'il est dit. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Voilà ce que peuvent faire les aînés et les jeunes ensemble et toutes les générations confondues. Se réjouir dans la présence de Dieu, se réjouir eh bien, au travers peut-être de nos louanges, de notre adoration. Mais la joie sera notre partage si nous nous aimons les uns les autres, si nous nous respectons les uns les autres. Vous savez ce qu'il est dit ? Par exemple, dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, verset 32, il nous est dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. » On ne parle pas aux cheveux blancs comme on parle peut-être à notre ami ou à notre copain. Il y a de l'autorité. Il y a une hiérarchie à pouvoir respecter. Et quand on regarde la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, on a besoin de parler comme il le faut eh bien, à celui qui est en face de nous. C'est peut-être le temps qui nous manquerait pour approfondir eh bien, la chose. Et je nous pose une autre question, comment aussi se réjouir ensemble si, par exemple, nous avons du mal à pouvoir s'accorder sur eh bien, le choix des recueils de chants sur lesquels eh bien, on s'appuie pour chanter. Oh, c'est beau ce matin, mon frère Sylvain a utilisé deux types de chants. « Notre Dieu règne encore ». Je suis sûr que certains jeunes n'ont jamais entendu ce chant. Vous savez, on est pris entre deux sandwichs. Il y a certaines personnes qui aimeraient eh bien, qu'on chante exclusivement sur certains recueils, vieux recueils comme « Sur les ailes de la foi ». Je ne suis pas contre. On a entendu un « Amen ». Et puis, à l'opposé, il y a certaines personnes eh bien, qui aimeraient exclusivement qu'on chante les derniers chants sortis le mois dernier ou la semaine dernière. Que faire ? Que faire ? Eh bien, la réponse, elle est dans l'amour divin, qui ne fait pas de mal au prochain. Et puis qui veille à préserver le lien de l'unité et de la paix. Qu'est-ce que je suis capable de faire ? Par amour pour l'œuvre de Dieu, par amour pour mon frère ou ma sœur, qu'est-ce que je suis capable de lâcher, de perdre peut-être, pour conserver cette unité? Une autre piste, c'est ce qu'a fait mon frère, c'est-à-dire mixer les chants. Vous savez, un chant inspiré restera toujours un chant inspiré. On peut le revisiter dans sa forme, mais à cause des paroles, on peut continuer à le chanter. Oui, notre Dieu règne encore, et jamais son amour ne s'endort. Ah, il y a même les rimes. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Regardez ce qu'il est écrit. Au reste, frères, soyez dans la joie. Au contraire, perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Vous ne pouvez pas savoir, votre pasteur aime la paix. Et si vous êtes porteur de paix, ça m'intéresse. Ne venez pas vers moi avec des conflits, des machins. J'ai dit à une mamie une fois, une personne qui voulait trouver, pas une mamie, non, c'était une personne d'un certain âge, mais pas une mamie, qui voulait trouver avec moi conflit, j'ai dit, va chercher quelqu'un d'autre. Hein. Dégagez-vous, sortez de là, n'entrez pas dans les conflits, ce sont des pièges de l'ennemi. Vivez en paix. Il y a trop de souffrance dans ce bas monde. Pour que dans l'église, il y ait encore des conflits. Je veux être en paix avec tous, afin de vous regarder tous. Gloire à Dieu. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Si tu n'es pas en paix avec ton prochain, tu ne peux pas l'être avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Et Dieu te dit, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. On peut s'illusionner, vous savez, dans la vie chrétienne, même après des années de conversion. Pensez que Dieu est avec nous. Pourtant, depuis longtemps, nous l'avons quitté parce que nous avons tergiversé. Et nous avons résisté en face à ce que Dieu nous demandait, c'est-à-dire de pouvoir préserver le lien de la paix et de l'unité. Dieu veut aussi que jeunes et aînés puissent servir Dieu ensemble. Et je voudrais terminer par cela. Servir Dieu ensemble à travers notre adoration, notre louange, c'est beau quand le peuple de Dieu chante ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, même nos enfants sont là et participent. Et c'est pour ça qu'on veut aussi ces cultes de famille, pour que les enfants aussi soient partie intégrante de ces cultes et qu'ils puissent s'exprimer avec nous et parmi nous. Servir Dieu à travers leurs prières et leurs intercessions. Et on va le faire mardi soir. Et plaise à Dieu qui est petits et grands. Pour élever la voix, une fois je suis parti dans une église avoisinante, là dans la région, et ce qui m'a marqué de toutes les prières, c'était un petit adolescent, un préadolescent, s'est mis à un moment donné à prier. Sa prière m'a bouleversé. Et c'est extraordinaire quand les enfants aussi trouvent leur place, eh bien, pour pouvoir louer, adorer le Seigneur. Et nos moments de culte doivent permettre aux aînés et aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Pour ça qu'il faut le faire courtement. On ne se rend pas compte, on est tellement rempli, alors on déballe, mais ça, il faut le faire à la maison. Mais quand on est rassemblé, peut-être faire une plus courte prière pour laisser, ah mais ça aussi, c'est l'amour, laisser notre frère ou notre sœur également s'exprimer. Ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que nous avons compris cela? Il faut que abondamment, ah bien, la maison de Dieu soit, ah bien, cette maison où nous pouvons, ah bien, converser avec Dieu, où nous pouvons intercéder, prier. Le prophète Joël, ah bien, dans un temps où le peuple d'Israël connaissait des moments difficiles, a fait une convocation solennelle et a invité, ah bien, tout le peuple, toutes les générations à pouvoir se rassembler. Il a invité même les nourrissons qui étaient à la mamelle de pouvoir venir avec, bien sûr, leur maman. Il a invité les jeunes gens, les jeunes filles, mais aussi les vieillards, à bien pouvoir se rassembler et chercher la face de Dieu au travers d'un jeûne et au travers de la prière. Et ce même prophète a su dire, toujours dans le chapitre 2 du livre de Joël, une prophétie, une autre prophétie, que Pierre lui-même va rappeler. Que Pierre lui-même va rappeler dans un de ses discours qu'on retrouve dans Actes chapitre 2, versets 17 et 18. Regardez ce qu'il est dit. Et c'est des choses qui commencent à se réaliser. Pour ça qu'encore ce matin, on a chanté, je ne sais pas si vous avez fait attention, beaucoup de chants qui étaient relatifs, en relation avec l'action du Saint-Esprit. Souffle sur nous. Souffle. On a besoin de ce souffle pour commencer à balayer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, pour qu'après, eh bien, nos voiles sont pleinement gonflées et que nous puissions aller de l'avant pour servir Dieu. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Plaise à Dieu que ce jour, d'une manière effective, d'une manière visible, eh bien, puisse être notre partage ici même dans cette église. Qu'un dimanche, on vient ici en ces lieux, comme à l'habitude, parce qu'il y a aussi des bonnes habitudes, eh bien, le Saint-Esprit nous surprenne tous, et petits comme grands, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Sur mes serviteurs et mes servantes, qui sont les serviteurs et les servantes du Seigneur, si ce n'est ceux et celles qui ont donné leur cœur au Seigneur, il peut avoir des serviteurs et des servantes qui sont adolescents, et il peut aussi avoir des serviteurs et des servantes du Seigneur qui ont un âge certain, nos aînés. Mais on voit que, eh bien, l'action du Saint-Esprit sera telle qu'elle touchera toutes les générations. Il nous est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand on regarde le texte originel, quand on dit vos fils et vos filles, vos enfants en bas âge, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Là, il fait mention même des adolescents, mais peut-être des moins jeunes. Ils auront des visions. On a besoin d'avoir une dimension visionnaire et ne pas rester stabilisé bien sûr des choses qui marchaient à l'époque. Mais on a besoin d'avoir les stratégies du Seigneur. Ne limitons jamais le Seigneur. Il y a des gens, ils limitent le Seigneur. Comment ? Parce que pour eux, est biblique uniquement tout ce qu'ils ont connu dans tout leur parcours chrétien. Et c'est là qu'on fait fausse route. Il faut même prendre un billet et puis aller voyager et voir que les choses sont différentes autre part. Parce que Dieu, il ne faut pas le limiter dans ce que nous connaissons. Dieu est capable de nous surprendre. On a besoin d'avoir des gens qui sont visionnaires. Et vos vieillards auront des songes. Et là, ça nous parle de la dimension de la sagesse. On a besoin d'être cadrés. Les jeunes ont besoin d'être cadrés. Et sont cadrés par les anciens. Et béni soit Dieu pour les anciens. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit une vague du Saint-Esprit pour toucher tous ceux, self, au final, qui désirent être remplis du Saint-Esprit. Puisse Dieu nous permettre de vivre une telle dimension spirituelle afin qu'ensemble nous puissions servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. En conclusion, comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur Jésus désire que son Église soit une Église où toutes les générations puissent s'aimer, se respecter, où toutes les générations se réjouissent et travaillent ensemble pour la gloire de Dieu. Et croyez-moi, lorsque ces choses, nous les pratiquons immanquablement, l'harmonie et la paix est au rendez-vous et le cœur de Dieu ne peut qu'en être réjoui. Que Dieu alors nous aide à vivre cette réalité au sein de notre église locale d'Istres. Qu'il y ait toujours l'amour et la paix parmi nous. Amen ou pas amen, frères et sœurs. C'est important. Autrement, ce sera... Et puis les gens de l'extérieur le verront. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et qu'ensemble, ados, jeunes, moins jeunes, aînés, nous puissions glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, prions ensemble le Seigneur. Tu l'as dit toi-même, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et je le crois, Seigneur mon Dieu, c'est ce temps aujourd'hui où nous pouvons nous réjouir, parce que tu as sauvé les jeunes, tu as sauvé les vieux. Tu as sauvé, Seigneur Père, mon Dieu, tous ceux et celles qui se sont tournés vers toi, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ton désir, c'est que nous puissions travailler ensemble, chacun dans la dimension que tu nous confies, chacun dans l'onction que tu nous confies, que nous puissions travailler ensemble à l'avancement de ton royaume. Seigneur, je te prie pour cette église d'Istres. Seigneur, nous allons bientôt terminer cette année 2018. Et ma prière, mon Dieu, en perspective de cette année 2019, c'est que, Seigneur, tu puisses continuer à la sanctifier de l'intérieur, que tu puisses dépouiller nos cœurs de tout ce qui n'est pas ta gloire, que tu puisses, comme on l'a chanté ce matin, souffler ce souffle nouveau, ce souffle de l'esprit, afin que nous soyons des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes gens, des ados, mais aussi des aînés spirituels devant toi. Et que nous puissions, plus que jamais, entrer, Seigneur, dans la mission que tu nous as demandé, à être ces témoins, ces lumières, Seigneur, au sein même d'un monde qui est troublé, qui est dans le chaos, qui est dans la souffrance et dans la désolation, que nous puissions proclamer que tu es encore l'espoir du monde. Aide-nous à comprendre ces choses, aide-nous à les vivre. Et je te prie, Seigneur, qu'il y ait le respect dans ta maison. Qui est, Seigneur Père, mon Dieu, l'amour manifeste par des gestes, par des faits, par des paroles. Tu as dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous voudrions bénir, Seigneur, nos frères et nos sœurs. Nous voudrions, Seigneur, que ta paix, ta joie, Seigneur, soit parmi nous. Nous chassons, Seigneur, tout ce qui ne viendrait pas de toi. Toutes les œuvres de l'ennemi soient brisées, soient détruites au nom de Jésus-Christ. Et que notre chair puisse continuer à être crucifiée au nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, nous soyons jour après jour semblables à toi. Tout cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ,